Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, patience, Ngalula Mbombo. Au sommaire de cette session d'actualité, la synergie des syndicats des enseignants du Congo décide de renforcer la grève dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. Elle annonce l'intensification de la grève, notamment dans plusieurs autres régions de la République. Plus de 60 000 déplacés internes des Kwamout continuent de croupir dans la misère en territoire des Bagata dans les Kwilu. En tout cas, femmes et enfants ainsi que vieillards ne savent à quel saint se vouer. Notre invitée est la sœur Marie-Bernard Alima, superviseure générale des sœurs missionnaires de la Croix et de la Miséricorde dans les Maniema. Elle revient sur la fabrication de la craie par sa congrégation et des défis qu'elle rencontre. Bonsoir à toutes et à tous. La synergie des syndicats des enseignants du Congo a décidé de durcir la grève dans la province éducationnelle Nord Kivu 2. C'est le résultat d'une assemblée générale extraordinaire tenue dimanche à Beni. Pendant ces temps, à Goma, certaines autorités scolaires envisagent de remplacer les enseignants grévistes. Une semaine après la rentrée scolaire dans les pays, les syndicats des enseignants annoncent l'intensification de la grève dans plusieurs autres régions de la République. Les points avec Sadiki Aboubakar.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire dimanche à Beni, la synergie des syndicats des enseignants du Grand Nord Kivu a décidé de durcir leur mouvement de grève. Ghislain Bambiri-Kiré, porte-parole de la synergie, explique les raisons de cette radicalisation.
De toutes les promesses du gouvernement, rien n'est fait jusque-là. Après analyse, les enseignants ont décidé de radicaliser leur mouvement de grève jusqu'à ce que la solution concrète soit trouvée.
À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, la grève se poursuit dans la plupart des écoles publiques. Le chef de la sous-division de l'EPST Karisimbi 1 menace même de remplacer les enseignants grévistes. Dans le Congo central, la situation est similaire. Lors d'une assemblée générale dimanche, la synergie des syndicats des enseignants a également décidé de poursuivre la grève. Voici les déclarations de Simon Siloulou qui a lu le communiqué final.
Le gouvernement reste immobile dans les mouvements de pouvoir payer. L'enseignant aussi reste immobile depuis la maison jusqu'à ce que nous allons toucher à main la promesse. Le jour suivant, les enseignants reprendront le chemin de l'école.
La grève se poursuit également à Bukavu dans le sud Kivu. Cependant, les parents du lycée Thirézi, une école conventionnée catholique, ont décidé de reprendre la prise en charge des enseignants pour assurer la continuité de l'éducation de leurs enfants. Les syndicats des enseignants d'Ikwilu se sont également réunis dimanche à Bandunduville et ont décidé de ne pas reprendre les cours. En revanche, à Kananga dans le Kasaï et à Bunia en Ituri, la grève n'est pas vraiment ressentie. À Kalemi, dans la province de Tanganyika, les cours ont repris ce lundi dans la plupart des écoles conventionnées catholiques à la suite d'un appel du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques, Sinecat. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Kapi.
Restons à Beni, où malgré les mots d'ordre dégrévés, certains enseignants ont quand même repris la craie ce lundi matin. Constat fait sur les terrains par notre reporter Guylaine Kassassia.
Sur les 6 écoles publiques de la place que nous avons visitées ce matin, 4 suivent les mots d'ordre des grèves lancées par leur syndicat. Seules 2 écoles fonctionnent plutôt normalement. Un enseignant rencontré à plein cours explique sa motivation.
Ce mandat d'enseigner, c'est parce que nous savons que notre gouvernement, il est ce qu'il est. Et à rapport de cela, vit des différentes situations qui se passent dans cette contrée ici. Les guerres, des arrêts intempestifs organisés par exemple, des mouvements de presse, des groupes de pression et qu'on sort. Nous avons jugé mieux, nous, personnellement, de reprendre avec le chemin de l'école. C'est pour prévenir à des éventuelles situations qui peuvent aussi avoir pitié des enfants.
Les élèves des écoles en grève qui viennent et retournent à la maison sans étudier parlent d'une grève qui les pénalise. L'une d'elles que nous avons rencontrée à l'entrée de l'Institut Bungoul explique ce désarroi.
Les enseignants ne sont pas à l'école. Maintenant, nous sommes rentrés. Nous venons de faire presque une semaine. Nous arrivons, les enseignants ne sont pas là. C'est seulement le bureau qui est ouvert. Nous regrettons que les écoles privées soient en train d'étudier, mais nous sommes là toujours, sans rien faire. Nous demandons alors au gouvernement de répondre à leurs demandes.
À Goma, toujours en Nord Kivu, certaines autorités de l'EPST mettent en garde les enseignants qui ne veulent pas rejoindre leur poste depuis la rentrée des classes le 2 septembre dernier. Tous les récalcitrants seront déclarés déserteurs et se verront remplacés dans les cas échéants par des nouvelles unités conformément aux textes légaux. C'est selon l'esprit du communiqué rendu public le 6 septembre dernier par le chef de la sous-division de l'EPST Karisimbi 1 en ville de Goma. Une mesure contestée par le syndicat des enseignants. Les points avec Gabriel Wamenya.
Le chef de la sous-division de l'EPST Karisimbi 1, qui confirme l'authenticité de ces documents, précise que le monitoring des absences des enseignants a commencé dans les écoles. Jacques Makelele affirme que quelques écoles, tant primaires que secondaires de sa juridiction, fonctionnent sans encombre. C'est le cas de l'Institut de Goma, l'une des plus grandes écoles publiques et officielles de la ville de Goma. Ses responsables estiment que pour l'intérêt supérieur des enfants, les enseignants devraient réclamer tout en gardant leur poste. Contacté, le secrétaire provincial de la force syndicale nationale Fosinate Nord Kivu parle d'un non-événement. Baala Chamavu Innocent affirme que le sous-provède de Karisimbi 1 cherche à couvrir son poste car la grève est constitutionnelle. Ces syndicalistes met aussi en garde ses responsables de l'éducation contre toute poursuite judiciaire pour ce qu'ils qualifient d'excès de zèle qui enfreint aux dispositions légales, conclut Baala Chamavu. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Je le disais au sommaire, la situation humanitaire des déplacés s'enfonce dans les territoires des Bagata, en province du Kwilu. Ils sont plus de 62 000 déplacés internes qui ont fui les incursions des miliciens Mobondo entre mai et juillet dernier à Kwamout, au Maïndombe et dans cette partie du secteur Wamba. Ces personnes vivent principalement dans les villages Fambondo, Fampanda, Fasila, Fatobo, Fatundu, Misai, Beno et autres et sont dépourvus de tout. Ce qui ressort du récent rapport de la mission d'évaluation rapide effectuée par OCHA et d'autres organisations humanitaires. Le point focal de l'ONG Cause Rurale, Brunel Ndombe, qui a fait partie de l'équipe, explique au micro de Irène Bomaluzolo.
Cette mission était une mission humanitaire d'évaluation rapide multisectorielle. Vous savez que depuis mi-mai 2024, ces déplacés souffrent aujourd'hui. Ils n'ont pas accès, bien sûr, à l'eau potable. Ils n'ont pas accès aux soins de santé. Ils n'ont pas accès à l'éducation, surtout les enfants, à l'âge de la scolarité. Ils n'ont pas accès à la nourriture. Ils n'ont plus rien, même les AME, les articles ménagères essentiels. Ils n'en ont pas parce que depuis ces mouvements, ils ont tout abandonné, même leur champ et tout. Et aujourd'hui, il y a une insécurité alimentaire et dans le zone de santé de Kikongo et de Bagata. Ces déplacés souffrent tellement des cas de malnutrition sévère, aiguë et modérée également. Nous plaidons au gouvernement congolais que le gouvernement congolais puisse prendre les choses en main. Parce que nous sentons qu'ils s'intéressent que de la partie est du pays, mais la partie ouest n'est pas vraiment du tout comptée dans le plan d'action du gouvernement. La situation aujourd'hui est catastrophique. D'autres, surtout les gens, les filles vivent aujourd'hui des sexes et des survies. Ça prouve en suffisance que le besoin humanitaire est vraiment urgent dans ce coin. Il y a les personnes de troisième âge et surtout les enfants qui sont exposés à des maladies.
Toutefois, à Ituri, plus de 3800 ménages de retournés ont reçu une assistance humanitaire dans le cadre du projet de l'UNICEF Réponse Rapide. Les bénéficiaires sont des Bakonde et Itendei dans le secteur des Banyalikilo dans le territoire de Djougou. Ces dons sont constitués des bâches, d'outils aratoires, des ustensiles de cuisine ainsi que des kits d'hygiène pour des femmes. Selon l'ONG PPSP, l'objectif est de soulager les souffrances de ces personnes vulnérables qui ont presque tout perdu à la suite des exactions des groupes armés. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis le mois de juillet dernier que ces déplacés ont fui les attaques des groupes armés dans les entités de Lodjo, Galaï, Itendei, plutôt des entités du secteur de Banyalikilo dans le territoire de Djougou. Depuis leur retour dans leur milieu d'origine, certains passent la nuit sous des tentes de fortune exposées aux intempéries dans la forêt d'Amolinga. D'autres vivent dans une précarité extrême dans des familles d'accueil. Mais pour tous, cette assistance constituée d'articles ménagers essentiels ainsi que des bâches et du pain béni. Willy Ngeli, l'un des bénéficiaires.
À tout cas, temps, il nous a beaucoup, beaucoup garanti avec de nos vivres ici à Itende et à Kilo, Bakonde, Kilo Mission. Et c'est presque pas moins de 3500 ménages qui ont réussi de nos vivres. Ce geste, c'est vraiment à louer. Il y a des bidons, des couvertures, des pioches, des pagnes, des choses qui peuvent alors beaucoup, beaucoup aider dans la cuisine. L'UNICEF doit encore faire des plaidoyers pour de plus de ce qu'il a fait à Kilo et à Itende, Bakonde, etc.
Plus de 14 000 familles de déplacés vivent dans des conditions difficiles, notamment dans la région minière de Mungwalu, depuis la dernière attaque de Lodjo qui avait coûté la vie à de nombreux civils et l'incendie de leurs maisons. Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
De Bunia, rendons-nous à Kananga où le conseil régional des ONG de développement Krong s'est dit vivement préoccupé par les retours des pluies et les cauchemars des habitants de la ville. Dans un communiqué de presse, cette plateforme constate que la saison sèche est passée et des grands travaux n'ont pas été entrepris pour stopper différentes érosions qui détruisent la ville et sa population. Indigné et appelant à la prise de responsabilité, le secrétaire exécutif provincial de Krong, Kasaï Central, rappelle les autorités la tragédie qui avait frappé Kananga le 26 décembre 2023 lors des pluies diluviennes ayant endeuillé et paupérisé des centaines de familles. Les propos d'Albert Kyungu sont recueillis par François Kadima.
Les retours de pluie, c'est les retours des cauchemars. L'espoir suscité par les nouveaux dirigeants s'est vite volatilisé, laissant la population dans le désespoir. On a assisté soit à l'arrêt, au gel, ou encore à la suspension des travaux qui avaient démarré sur quelques sites. Sous divers financements, nous pouvons citer les érosions de Bianchi, de Bethel, de Lasda, exécutées par l'OVD, sous financement du FONER, les érosions de la gare SNCC, aéroport national de Lukonga au point kilomètre 706, qui sont à l'arrêt pour faute de gestion depuis plusieurs mois, compromettant du coup les débits des travaux des autres érosions prioritaires qui ont été déjà identifiées. Il est fort déplorable de constater que toute la saison sèche est passée sans que des actions d'envergure ne soient menées pour saisir cette opportunité et mettre les bouchées doubles afin d'atténuer la progression des érosions et réduire leurs effets néfastes sur les populations riveraines exténuées et stressées chaque jour.
Direction la province du Sud Kivu. La population de Bukavu a été conviée hier à un meeting populaire par les gouverneurs des provinces au stade de Kadutu dans la ville de Bukavu. Jean-Jacques Pouroussi a étalé les bilans de ces deux mois à la tête de la province. Un bilan axé essentiellement sur les secteurs miniers, infrastructurels, sécuritaires et financiers. Cet exercice de redevabilité est perçu différemment dans l'opinion publique. Jean Kassami.
Certains habitants considèrent que le bilan présenté par le gouverneur de province est un signe de bonne gouvernance, tandis que d'autres préfèrent attendre voir des faits palpables sur le terrain. Dans son exposé de plus de deux heures, Jean-Jacques Pouroussi est revenu sur l'amélioration des recettes du trésor public au cours de deux mois de son règne.
Tous les services d'assiette qui ont aidé à collecter les taxes, nous avons leur restitué la partie prévue par les dispositions juridiques en la matière.
Satisfaction pour ce jeune qui est venu suivre le meeting par simple curiosité.
Qu'il puisse continuer comme ça, notre province ira de l'avant.
Bien qu'applaudi par la majorité, certains autres habitants du site Kivu restent sceptiques.
Prions sans cesse pour nos autorités provinciales parce qu'ils ont un morceau d'y raccroquer. Ils peuvent avoir l'idée de travailler, mais avec le manque d'ordre qui vient de leur hiérarchie, ça ne peut pas leur permettre de bien travailler.
Deux mois pour un mandat de cinq ans, c'est encore possible de réaliser des travaux à impact invisible, espère encore la plupart des participants au meeting de redevabilité. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
En province du Tanganyika, deux cas suspects de Mpox sont enregistrés dans les territoires des Kabalo. Dans une déclaration hier à la radio Kapi, l'administrateur du territoire annonce que des échantillons sont déjà envoyés à Kinshasa. Il sensibilise la population au respect des mesures barrières. Les points avec Paulin Munanga.
Dans un communiqué rendu public ce samedi, l'administrateur du territoire de Kabalo a annoncé la détection de deux cas suspects de Mpox ou la variole des singes. Prince Senghor décrit les signes de cette maladie et appelle ses administrés à plus de vigilance et au respect des mesures barrières, lit-on dans ses communiqués. Il ajoute que les deux cas suspects sont isolés à l'hôpital général de référence de Kabalo.
À notre niveau, on n'a pas la latitude de confirmer. Mais tous les signes possibles que nous avons observés sont des signes qui témoignent noir sur blanc qu'il y a déjà ces cas de maladie. J'ai élaboré ce communiqué, c'était à connaissance des causes pour sensibiliser la population à être toujours vigilant. Il est temps pour nous de voir la suite parce que les éléments ont été déjà envoyés à Kinshasa et que les deux personnes continuent à être gardées d'une manière un peu isolée pour éviter le contact.
Rappelons que notre cas suspect d'impox a été enregistré dans le territoire de Moba il y a quelques semaines. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
En sport, les léopards seniors de la République démocratique du Congo seront reçus par les Walias d'Éthiopie ce lundi soir au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam en Tanzanie dans le cadre de la deuxième journée du groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Les fauves congolais livrent cette rencontre 72 heures après la victoire enregistrée devant la Guinée 1-0 le vendredi dernier au stade des Martyrs de Kinshasa lors de la première journée de cette compétition avec un but signé Edo Kaembe à la 27e minute. À ce jour, la RDC est en tête du classement avec 3 points devant l'Éthiopie et la Tanzanie qui ont un point chacun et la Guinée est dernière avec 0 point.
Actualité internationale.
Au Sénégal, les recherches sont toujours en cours ce 9 septembre 2024 suite à un nouveau drame de l'émigration clandestine. Une pirogue avec au moins 150 passagers à bord a chaviré la veille au large de la ville d'Embourg à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. 5 corps sans vie ont été repêchés en fin de matinée ce lundi par un bateau de la Marine nationale. Des corps qui viennent s'ajouter aux 4 personnes noyées retrouvées dès dimanche par les pêcheurs venus à la rescousse de la pirogue en En tout, 24 personnes ont pu être sauvées et 3 hommes sont encore à l'hôpital.
L'invité.
Notre invité, c'est la sœur Marie-Bernard Alima, superviseure générale des sœurs missionnaires de la Croix et de la Miséricorde. Elle nous parle de la fabrication des craies et la transformation de leurs produits à Kinkungwa, village situé à plus de 100 km de Kindu. Sœur Marie-Bernard Alima s'entretient avec Florence Kizalunga.
Sœur Marie-Bernard Alima, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes dans votre congrégation ici. Vous êtes entourée par des boîtes de craie. C'est vous-même qui fabriquez ces craies?
Oui, nous fabriquons la craie. Nous appelons ça Chakinzuri Akwetu Kinkungwa. C'est une craie de haute qualité. Que nous avons décidé de commencer la fabrication des craies pour renforcer l'éducation des enfants. Et surtout les écoles qui sont dans les périphéries, loin des centres-villes. Nous en produisons pour essayer de renforcer le secteur éducationnel.
Ma soeur, où est-ce que vous trouvez les matières premières pour la fabrication de ces craies?
C'est ça le grand problème que nous éprouvons. Nous achetons à Goma, à Kinshasa, les matières premières, mais nous sommes en train de réfléchir avec le gouverneur, ça c'est parmi les acquis, c'est qu'on va voir comment avoir produit nous-mêmes la matière première pour la fabrication des craies. Parce que c'est une matière qui est rare, qu'on ne trouve pas, la craie, et c'est pour ça qu'on se plaint beaucoup que les enfants ne savent pas lire et écrire par manque de craie. Ça coûte trop cher, et alors nous allons réfléchir ensemble sur la possibilité d'en trouver davantage.
Maintenant, ces craies que vous fabriquez ici, vous les vendez ou bien vous donnez gratuitement aux écoles parce que vous contribuez à l'amélioration de l'éducation des enfants.
Mais comment on peut distribuer? On n'a jamais reçu un appui pour faire ce travail-là. C'est nous-mêmes avec nos efforts personnels. C'est pour ça que même si c'est un prix assez réduit, mais quand même, nous vendons pour que nous puissions encore acheter la matière première pour en produire davantage. Mais ça, la demande est très élevée par rapport à la production. C'est pour ça que le gouverneur a dit qu'ils vont nous accompagner pour réfléchir sur la possibilité d'en produire davantage et d'alléger effectivement la tâche des écoles.
Comment vous organisez la vente de ces craies?
La vente de ces craies, nous en parlons aux écoles. On passe d'une école à une autre et nous passons le message seulement dans les églises, au niveau de l'inspection, mais localement. On ne sait pas faire ça à grande échelle parce qu'on ne produit pas beaucoup. Mais ceux qui découvrent ça nous encouragent et disent que ça ne peut pas rester un produit local, qu'il faut étendre ça même au niveau de la province. Et c'est pour ça que ça nécessite une grande contribution, un appui pour que nous puissions en produire davantage.
Ma sœur, dans votre congrégation, nous voyons aussi des gis, nous voyons des tomates, que vous êtes aussi dans le domaine de l'agriculture.
Oui, non seulement de l'agriculture, mais de la transformation. Nous travaillons sur la chaîne des valeurs. Nous avons des arbres fruitiers et nous produisons aussi les jus. Nous avons des tomates. L'ambition pour nous, c'est de produire aussi des tomates concentrées. Et nous avons des champs de maïs pour la fabrication de pop-corn. Nous fabriquons aussi des biscuits et ce qu'ils appellent ce soma, donc la bouillie pour les enfants qui souffrent de malnutrition. Ce qui est intéressant, c'est que les produits, la matière première pour fabriquer tout ça, ça provient de nos champs. Donc, nous sommes engagés dans l'agriculture et pour produire la semence, comme pour être des agro-multiplicateurs, mais aussi pour la transformation des produits que nous prélevons de nos champs.
Cette transformation, vous le faites comment? Vous avez des machines, c'est industrialisé?
Ce n'est pas encore industrialisé. C'est aussi parmi l'objet d'échanges avec le gouverneur. Comment trouver des machines de transformation? Ils ont déjà vu les champs, mais alors il faut transformer. Nous avons commencé de manière artisanale, mais vu la qualité et le besoin effectivement exprimé pour l'acquisition de tout ça, et surtout la demande au niveau de la population, il nous a encouragé. Il a dit effectivement que dans le domaine de la transformation, que nous allons approfondir aussi la réflexion pour voir comment on peut améliorer et répondre justement à la grande demande de la population.
Quelle qualité de main-d'œuvre que vous utilisez ici?
La main-d'œuvre, souvent les mamans que nous formons, c'est avec elles que nous travaillons. Les mêmes personnes qu'on dit parfois démunies, nous essayons de redonner dignité en leur apprenant du travail. Dans nos centres de formation professionnelle, ils viennent, ils apprennent et ils produisent avec nous.
Ma sœur, après avoir vendu, comment vous organisez avec le pain que vous trouvez ici, de tout ce que vous transformez ici?
Le pain que nous trouvons, nous investissons dans les œuvres pour nourrir les enfants abandonnés, pour encadrer ces mamans, ces femmes qui sont en difficulté, ces jeunes désœuvrés, on leur donne quelque chose. Même les enfants qui nous proviennent d'autres provinces, du Sud Kivu par exemple, nous accueillons aussi des enfants qui n'ont pas de parents. C'est pour les aider que nous développons toutes ces activités-là. Et nous sommes heureuses de faire ça. Et si quelqu'un peut nous rejoindre sur ce champ-là, je crois qu'on aura soulagé beaucoup de souffrances, surtout des jeunes et des enfants et même des femmes.
Sœur Marie-Bernard Alima, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information sur Radio Kapi. Jean-Claude Nsiala, la mise en ordre sous la supervision et coordination de Pele Kipelamondo et Richard Junior Kamungambo Achimankinda. À vous fidèles auditeurs, merci de votre écoute et bonsoir.